Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, ancien élève de l'ENA, haut fonctionnaire, vous êtes actuellement directeur de l'information légale et administrative, après l'avoir été de la documentation française. Xavier Patier, vous êtes également romancier, auteur de plusieurs ouvrages parus chez Gallimard ou à la Table Ronde. On ne s'étonnera pas que l'ancien commissaire à l'aménagement du domaine national de Chambord soit aussi un chasseur. Chasseur à tir, mais surtout veneur. Vous avez publié il y a quelques années un ouvrage dédié à la chasse, intitulé d'ailleurs « La chasse », paru au Cavalier Bleu et qui a obtenu le prix de la Fondation Sommaire. Et vous dénoncez dans cet ouvrage, avec beaucoup d'esprit, un certain nombre d'idées reçues dans le domaine de la chasse. Il est vrai que peu de sport, pour parler comme Pascal, peu de divertissement, suscite en France autant de passions que la chasse. Quel est le point de vue du romancier que vous êtes sur ces passions soulevées par la chasse ?
La chasse, ce qui est intéressant, c'est que c'est un grand malentendu. La France est un pays de paysans qui habitent en ville. C'est ça le drame du XXIe siècle. En tout cas, c'est la grande clé qui permet de comprendre beaucoup des évolutions de nos mentalités. Et la chasse, c'est un sport devenu très marginal, bien que ce soit 1 million et 1 million de personnes qui le pratiquent. Mais presque tous les Français ont au moins un arrière-grand-parent qui chassait. Autrement dit, on est vraiment à la rupture entre une France rurale et une France urbaine quand on parle de chasse. Et le discours sur la chasse a énormément évolué. Tartarin a cédé la place aux chasseurs honteux. C'est-à-dire qu'on a maintenant une catégorie tout à fait nouvelle qui sont les chasseurs inavoués. Notamment dans les milieux cultivés, comme on dit un peu, de manière un peu courte, la chasse n'est plus quelque chose dont on se glorifie. Alors le roman, ça peut être ça. Ça peut être le roman du chasseur honteux.
C'est-à-dire qu'elle a suivi le mouvement inverse des populations françaises. On est passé en un siècle d'une France très rurale à une France extrêmement urbaine. Et la chasse, qui était par définition une activité populaire, surtout en France, où elle était considérée comme un acquis de la Révolution, le grand public tendant à confondre vénerie et chasse à tir, qui n'avait pas le même statut sous l'Ancien Régime, a été victime de cet inversement de mouvement de population dans une société finalement majoritairement urbaine aujourd'hui.
C'est-à-dire que la relation, l'image que l'homme a de la nature a changé en France, parce que la nature est devenue une espèce de représentation. Et donc, on voit maintenant dans la chasse un acte de barbarie gratuite, une part d'animalité qu'on n'a pas envie d'assumer, alors que la chose allait de soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé d'un militantisme de la chasse à une hostilité à la chasse. On est passé d'une situation où la chasse était une activité qui ne se discutait pas, vers une société dans laquelle l'activité de chasse est interpellée en permanence, que ce soit parce qu'on lui reproche sa cruauté inutile, ou qu'on lui reproche la culture qui gravite autour, qui serait machiste, ou encore qu'on lui reproche la sélection sociale qu'elle pratiquerait. Tout ça, ce sont des mythes, mais enfin, ils existent.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal aussi dans le rapport à la mort qu'on a aujourd'hui, la mort humaine, mais aussi la mort animale, vis-à-vis de la chasse, ou de valeurs sous-tendues par la chasse? Vous parliez de machisme tout à l'heure, entre guillemets, mais surtout de valeurs viriles, une certaine sensiblerie aujourd'hui qui a fait place à ces valeurs qui allaient de pair autrefois avec la chasse.
Oui, alors on vit dans un monde, et c'est relativement récent, où la mort n'existe pas. C'est-à-dire que la mort est complètement refoulée. La mort humaine d'abord. Quand on regarde les sondages, on a 80% des Français qui voudraient mourir chez eux. Et on a 80% des Français qui meurent à l'hôpital. Et qui en fait, je dirais presque ne meurent pas, parce qu'ils meurent sans témoin. Mort animale également. Alors on a en ce moment une polémique sur la viande halal, donc on est en train de se rappeler qu'effectivement, quand on mange de la viande, elle correspond à un animal qui a bien été tué à un moment donné. Mais pour le reste, la mort animale, je pense notamment aux volailles, aux poissons, est un sujet totalement refoulé. Et alors, a fortiori, la chasse. Or, comme la chasse pourrait être définie comme tuer un animal par plaisir, là, on est dans le péché absolu. Parce que tuer est un tabou et prendre du plaisir en tuant, alors c'est vraiment la transgression totale dans une société qui prétend avoir supprimé les tabous. Il reste celui-là, me semble-t-il.
C'est intéressant de tenir ces propos-là cette année, en 2012, où on fête justement le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Ce concept d'état de nature, la sensiblerie qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée que l'homme n'est peut-être pas le centre de la création, mais qu'il en est un, ou qu'il en serait un perturbateur. Est-ce que tout ça ne contribue pas à nourrir un certain argumentaire qui est développé à l'encontre de la chasse ?
Oui, alors il y a plein de manières de nourrir des argumentaires contre la chasse. Mais l'argument philosophique définitif, c'est effectivement celui qui interpelle la place de l'homme. Parce que l'homme qui chasse, c'est véritablement l'homme qui s'assume dans toute son ambiguïté. C'est-à-dire, c'est l'homme au sommet de la création, qui domine. au sens de la Genèse, qui domine la nature. Et en même temps, l'homme qui chasse, c'est l'homme qui assume sa part de bestialité, c'est-à-dire c'est le carnivore. Il y a une part de sauvagerie dans l'homme. Et c'est ces deux aspects qui sont finalement refoulés, à la fois celui de l'homme au sommet de la création, on voudrait au contraire, notamment dans certaines philosophies liées à des mouvements environnementalistes, que l'homme soit un élément parmi d'autres de la planète. Et deuxièmement, on ne veut pas assumer la sauvagerie de l'homme, c'est-à-dire qu'on refoule l'idée que l'homme fait partie de la chaîne de prédation. Et on en arrive d'ailleurs à souhaiter, dans certains cas, une espèce de planète heureuse qui, pour être heureuse, aurait besoin de se débarrasser d'un seul prédateur gênant, qui serait précisément l'homme lui-même. Alors que la thèse judéo-chrétienne, mais jusqu'à Rousseau inclus, c'est que précisément une planète qui n'aurait pas l'homme pour témoin n'existe plus. On est vraiment dans ce niveau-là de contradiction.
Alors, on est aujourd'hui confronté à un accroissement démographique de certaines espèces, notamment en matière de grands gibiers, de sangliers, de chevreuils, avec les risques que ça entraîne en termes de risques sanitaires ou de collisions automobiles, par exemple, ou sans parler des dégâts portés aux cultures. C'est un sujet de débat classique entre agriculteurs et chasseurs. Vous avez été vous-même le spectateur direct des conséquences de l'arrêt des chasses présidentielles lorsque vous étiez en charge au domaine de Chambord en 1995. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les conséquences qu'on a très pu vite observer de cet arrêt des chasses?
Alors, Chambord est un cas particulier parce que c'est un domaine clos, même s'il est très grand, 5440 hectares. Mais enfin,
une des plus grandes réserves de chasse de France.
Sans aucun doute, le plus grand parc clos d'Europe, clos de Mur, bon, avec une population d'à peu près 1000 sangliers. Et on sait bien que, toute chose égale, dans un territoire fermé, une population de sangliers, elle double tous les ans, bon an, mal an, en fonction évidemment du climat, des glands, etc. Et donc, faute de prélèvement, on arrive à une explosion extrêmement rapide démographique. Et le seul fait de passer de 16 à 13 battues, ça c'était au moment où on a supprimé les battues entre guillemets présidentielles, a totalement déréglé le prélèvement, l'équilibre démographique de la population des sangliers de Chambord. Et donc il a fallu trouver des moyens de prélever. Autrement dit, on n'a pas trouvé d'autre système que la chasse pour pouvoir réguler, comme on dit, les populations des grands animaux. Alors qu'il y a deux manières de les chasser. Comme dans le canton de Genève, c'est les faire chasser par des fonctionnaires rétribués qui, d'une certaine manière, le font aux frais du contribuable et sans plaisir, ou la manière classique, qui est de le faire à l'intérieur d'un plan de chasse par des particuliers volontaires qui le font à leurs frais et avec plaisir. Mais dans tous les cas, effectivement, la prolifération des grands animaux, qui est un des phénomènes majeurs des dernières années, nous interpelle sur le rôle de la chasse et du chasseur.
Il serait dommage en même temps de copier ce modèle suisse et de ne faire plus que des chasseurs en France des agents de la régulation.
Ce serait lamentable. Et on a maintenant un phénomène, c'est qu'on a une espèce de retour, une espèce de sauvagerie. Et la sauvagerie, elle ne se trouve pas au fin fond des forêts, elle se trouve dans ces zones entre les délaissés d'autoroutes, les grandes surfaces, les champs de maïs, tout ce monde qui se trouve quelque part entre la banlieue et la campagne, qui n'est pas complètement la ville, qui n'est pas complètement la campagne, où vivent 20% de la population française et où prolifèrent des grands animaux, à l'abri des autoroutes et de la grande surface. Et ces grands animaux, il faudra bien à un moment donné être capable de les réguler. Et la meilleure manière de faire, c'est effectivement d'éduquer les jeunes générations à la chasse. Ça fait partie de notre condition. Et vous savez ce que disait Blaise Pascal, il n'a pas seulement dit que la chasse était un divertissement, il a aussi dit que qui veut faire l'ange fait la bête. Refouler la chasse, c'est faire l'ange. Et les résultats, évidemment, seront vite là.
Alors dans votre livre « La chasse » paru au Cavalier Bleu, parmi les idées reçues dont la chasse est parfois la victime, vous dénoncez l'idée d'un déclin inéluctable, entre guillemets, on est à 1 250 000 chasseurs aujourd'hui, un chiffre qui est assez stable, et vous donnez de nombreux exemples qui montrent des points encourageants sur l'avenir de la chasse. Vous citez par exemple les exemples des fédérations départementales de chasseurs qui proposent aujourd'hui un permis accompagné, des cotisations adaptées pour ces jeunes chasseurs. Vous soulignez que les chasses traditionnelles ont bénéficié d'une véritable reconnaissance grâce à la loi de chasse de l'an 2000. Et puis vous citez également le récent livre blanc de la Vénerie qui montre que la chasse a cours, avec plus de 400 équipages, 431 je crois en France, et non seulement en pleine forme, mais qu'elle est aussi beaucoup plus démocratique dans son recrutement qu'on ne le dit.
Alors la chasse à cours, c'est probablement une chasse d'avenir. La limite, ce sera une limite liée au territoire eux-mêmes, hein, parce qu'on ne peut pas chasser à court n'importe où, on ne peut pas imaginer une France avec 60 millions de veneurs, mais c'est une chasse d'avenir parce que c'est la chasse la plus écologique, et la plus esthétique et la plus technique. Autrement dit, dans un monde où on est entassé dans les villes, c'est l'évasion absolue, je pense, hein, la chasse à court, pour ceux qui le peuvent, mais ça serait également vrai de la chasse à l'arc ou de différents types de chasse qui nous rapprochent de ce que nous sommes, c'est-à-dire une créature qui n'est finalement très heureuse que dans la nature. Moi, je le crois profondément. Et une journée de chasse, et notamment une journée de chasse à cours, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une journée où on vit plus fort. Moi, je le vis comme... On s'imagine souvent que l'image d'Épinal de la chasse à cours, c'est le cavalier qui va à toute vitesse sur sa monture. En fait, non, l'archétype de la chasse à cours, c'est le cavalier qui est arrêté dans un layon et qui écoute et qui regarde. C'est une attitude contemplative. La chasse à cours, à la française, est d'abord une chasse contemplative. Il faut écouter. Écouter le travail des chiens, regarder. Être patient. Ne pas se croire trop malin. Ne pas être bavard, parce que c'est une chasse où on a vite fait de dire des sottises et les meilleurs veneurs se reconnaissent au fait qu'ils parlent peu. Et ça fait donc des journées véritablement de très grand bonheur pour ceux qui ont la chance de les vivre. Soit que c'est des nostalgies d'enfance, soit que c'est une découverte. C'est-à-dire que autrefois, la chasse était vraiment un sport qui était très héréditaire. On constate maintenant enfin, qu'il y a des premières générations de chasseurs qui arrivent, hein, qui sont des chasseurs très heureux dans toutes les disciplines de la chasse et pour qui ça n'est pas une tradition familiale. Et si on se projette à plus long terme, que sera le chasseur dans 20, dans 30 ans ? Je pense qu'il y aura un peu plus de femmes. Je pense qu'il y aura des chasseurs qui seront très bien formés aux questions de sécurité, d'écologie, de développement, qui investiront beaucoup de temps parce qu'ils ont dû avoir beaucoup d'énergie pour apprendre leur mode de chasse. Et on aura des chasseurs qui vont ressembler à des militants de l'écologie d'un certain type. Ça sera ça, le chasseur. Il y en aura probablement un peu moins, mais je pense qu'il y en aura encore beaucoup. Il faut faire en sorte qu'il y en ait beaucoup, ne serait-ce que pour réguler la démographie des animaux.
Alors, vous évoquez tout à l'heure des territoires qui sont moins nombreux, moins disponibles peut-être qu'au début du siècle, qui se raréfient. Comment est-ce que vous voyez ce partage de la nature entre ces différents usagers ? C'est un thème qui est très en vogue aujourd'hui.
Oui, les conflits d'usage dans la forêt, c'est vieux comme le monde. Le Moyen-Âge a été... Il y avait beaucoup de monde en forêt au Moyen-Âge. Il y avait les droits de glander, il y avait ceux qui chassaient, ceux qui amenaient les cochons, ceux qui ramassaient du bois mort, ceux qui n'avaient pas le droit de ramasser du bois mort. Et donc, la forêt, en France notamment, hein, ce qui fait partie de notre culture, de notre identité, la forêt, c'est un lieu qu'on se dispute un petit peu, y compris la forêt domaniale. C'est loin de privé de l'État, mais c'est l'État, c'est à tout le monde, ça n'est pas à tout le monde non plus. Et donc, il faudra qu'il y ait des règles pour permettre la cohabitation entre des chasseurs qui manient quelquefois des armes extrêmement dangereuses, des vététistes, des marcheurs, des promeneurs, des contemplatifs. La forêt est un lieu de civilisation, ce n'est pas un lieu de sauvagerie. On voit d'ailleurs en ce moment, le lieu de sauvagerie, c'est plutôt la ville. La forêt française, bien percée, organisée, planifiée, est un lieu extrêmement humanisé. C'est d'ailleurs ça le paradoxe de la chasse. C'est que la chasse, c'est véritablement l'homme organisateur de la nature. Ce n'est pas l'homme prédateur bestial, comme certains le pensent.
Alors cette émission, cette conversation d'aujourd'hui est le fruit d'un partenariat entre Canal Academy, la web radio de l'Institut de France et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un établissement public que vous connaissez bien et qui célèbre cette année ses 40 ans. Vous êtes juriste, vous êtes magistrat. Quel est le rôle de l'administration ou des pouvoirs publics pour vous vis-à-vis de la chasse ? Est-ce que l'État doit se borner à dire le droit de la chasse ou est-ce que, grâce à des établissements publics justement comme le NCFS, il a vocation à ouvrir des voies et à faire mener des expertises et à missionner justement des chercheurs sur certaines problématiques qui se posent à la chasse, à la faune sauvage et à ses habitats d'une manière générale aujourd'hui ?
Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais si on regarde ce qui s'est passé depuis la Révolution, pour prendre une période relativement courte mais quand même assez significative... Au début, la chasse, ça relevait, enfin, le droit de la chasse, la tutelle de la chasse, le permis de chasser, le permis de chasse, comme on disait d'ailleurs, et ça relevait du ministère de l'Intérieur. La préoccupation initiale de l'État, c'était l'ordre public, c'est-à-dire éviter qu'on tire sur son voisin ou qu'on se promène avec des armes sans aucun contrôle. Au milieu du 19e siècle, il y a eu une loi importante, alors je ne sais plus de quand elle est, mais je pense qu'elle date de la monarchie de Juillet.
1844.
Qui a créé le régime moderne de la chasse et le positionnement moderne de l'État vis-à-vis de la chasse et qui a rattaché la chasse à l'agriculture. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est passé de logique de police à une logique de protection de la culture, de gestion de l'agriculture et de gestion de la faune. C'était balbutiant, mais c'était bien l'ambition. Et puis, un siècle et demi plus tard, on est passé de la tutelle de l'agriculture à la tutelle de l'environnement, de l'écologie, du développement durable. Ça a d'ailleurs été un enjeu au moment, pendant plusieurs années, les chasseurs revendiquaient la tutelle de l'agriculture qui leur paraissait plus amicale que la tutelle de le ministère... jeune et encore un peu incertain, qui s'appelait le ministère de l'écologie. Maintenant, ça n'est plus discuté d'ailleurs. Ça veut dire que maintenant, l'État est passé d'une logique de gestion du développement et de l'écologie au sens le plus large, pas seulement de l'agriculture. Et là, de ce point de vue, il a un rôle, à mon avis, irremplaçable. C'est effectivement d'assumer la responsabilité collective sur la valorisation du patrimoine naturel. Et ça nous renvoie à des ambitions très anciennes, c'est-à-dire que l'homme comment dirais-je, est là pour parachever la création. Et dans l'acte de chasse, ou dans l'acte même de gestion écologique dans le sens le plus large, il est bien là-dedans. C'est-à-dire qu'il est véritablement dans sa vocation, me semble-t-il. Et l'État lui-même est complètement dans sa vocation. En France, on a une tradition très ancienne de, j'allais dire, de consanguinité entre la chasse et l'État. Il y a beaucoup de raisons à ça, mais c'est assez heureux finalement. Et si on a encore beaucoup de chasseurs en France, on est le premier pays d'Europe de ce point de vue, si on a les forêts qu'on a, si on a cette chance-là, c'est parce que précisément l'État s'est préoccupé de longue date de la forêt et de la chasse.
L'État français est lui-même incorporé dans un processus plus global, qui est le processus communautaire européen. Et la France a été plusieurs fois condamnée pour la non-transposition dans son droit de certaines directives, notamment la directive Oiseaux. Là encore, comment est-ce que le haut fonctionnaire que vous êtes voit cette transposition et les enjeux que l'Europe fait poser sur la chasse à la française?
Oui, alors on peut effectivement constater ça, mais enfin la première chose à dire, c'est que la directive Oiseaux, elle est d'inspiration française. Il faut savoir, M. Ortoli, qui était commissaire, ça remonte aux années 60 ou 70, qui a imaginé, conçu, proposé, fait adopter la directive Oiseaux. Donc c'est une directive. Et d'ailleurs, c'est assez classique, l'idée est française, l'initiative est française, et le mauvais élève au moment de la transposition, c'est aussi la France. Cette affaire est une affaire compliquée, qui a donné lieu à des tas de contentieux dont je ne saurais pas parler parce que je n'ai plus le détail en mémoire, mais c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup de gens, au moment où il y a eu des problèmes de transposition de directive, celle-là ou d'autres, disent « c'était pas à Bruxelles de nous dicter notre manière de vivre, notre art de vivre. Et la chasse, c'est pas un loisir, c'est pas un sport, c'est un art de vivre. » Et là, grand danger. Alors c'est très facile de décliner ce genre de discours. Il n'empêche qu'il est impératif pour la puissance publique, que ce soit l'État ou les instances européennes, d'avoir une vision et une politique en matière de développement durable. La chasse ne peut pas en être exclue. C'est la raison pour laquelle la France avait proposé la directive Oiseaux et d'autres directives. Donc voilà, je pense qu'il faut bien être conscient du fait que chasser, c'est beaucoup de devoirs. On est un peu ennuyé parce que dans la tradition littéraire française, le braconnier a une image positive.
Souvent sympathique, oui.
Sympathique. Alors c'est dû à Rabouilleux, c'est dû à la littérature. Parce qu'en fait, en pratique, si on regarde l'ordonnance de François Ier, le braconnier, il est soumis aux peines les plus infamantes. Peine capitale en cas de récidive. Ça, c'est aussi une tradition de l'Ancien Régime. Donc, mais le braconnier, pour des raisons assez curieuses, c'est le chapardeur sympathique. Et d'ailleurs, cette image a un peu coloré l'ensemble de la chasse telle qu'on la voyait à l'époque de François Mauriac. Bon. Le chasseur du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très responsable, qui fait pas n'importe quoi, qui vit dans un... Il n'est pas dans la sauvagerie et dans la cueillette. Il est véritablement dans la gestion d'un monde civilisé, dont la nature fait partie.
Un vrai partenaire de la nature, oui. Au même titre que tous les autres usagers.
Au même titre, avec une responsabilité encore plus élevée, d'abord parce qu'il transporte avec lui un jouet particulièrement dangereux, qui peut être un fusil ou une carabine, et ensuite parce que, suivant qu'il fait ou pas son plan de chasse, il a des incidences. Que sur les équilibres cynégétiques, alors que le marcheur qui fait ou qui ne fait pas le circuit qu'il avait prévu, je veux dire, c'est une affaire qui ne concerne que lui. L'action du chasseur ne concerne pas que le chasseur.
Xavier Patier, je vous remercie d'avoir revisité avec nous et dénoncé ces idées reçues qui circulent parfois dans le domaine de la chasse. Je rappelle que vous avez publié La chasse à la collection Idées reçues au Cavalier Bleu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.